Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui au livre Murray Bookchin pour une écologie sociale et solidaire, paru aux éditions Le Passager clandestin en 2014, dans une collection consacrée aux précurseurs de la décroissance. Alors pour discuter de Murray Bookchin et de son écologie libertaire anticapitaliste, nous sommes avec Floréal Romero, un des deux auteurs de l'ouvrage. Bonjour Floréal.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, puisqu'on n'a jamais abordé vraiment frontalement la thématique écologique dans cette émission, j'aimerais d'abord rappeler, pour ceux qui le savent déjà ou commencer à l'aborder pour ceux qui sont étrangers à ce genre de réflexion, le lien entre la dynamique du capitalisme et la crise environnementale. Alors, évidemment, tout le monde sait qu'il y a une crise environnementale particulièrement forte aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, la destruction des forêts primaires, 20% de l'Amazonie et 60% des forêts de Bornéo depuis 30 ans, qu'il y a une sixième extinction de masse, etc., etc., et que le capitalisme, a priori, ne va pas résoudre cette crise environnementale avec sa géo-ingénierie complètement délirante. C'est son marché carbone qui ne résout rien et où une nouvelle phase d'industrialisation nucléaire qui sera complètement destructrice et que tout ce qu'on peut attendre du capitalisme, c'est une crise environnementale s'aggravant toujours plus ou alors une dictature technocratique qui atténuera un peu la crise environnementale, mais au prix de sacrifices politiques et sociaux très importants. Alors, qu'est-ce qui est le moteur de cette crise environnementale? Dans notre analyse, c'est évidemment la production de marchandises et leur consommation corollaire, leur gaspillage structurel, qui est l'essence même du capitalisme, puisque le capitalisme, défini comme une société de production de marchandises au travers du travail, mais aussi des machines, et comme obéissant à un certain nombre de lois, la loi du standard de productivité, le fait qu'il faut produire un niveau de productivité au moins égal aux autres, sous peine d'être éliminé parce que non compétitif, au fait qu'évidemment il faut que ce soit une production qui ramène un certain profit, sinon évidemment si les capitalistes investissent 100 et qu'à la fin ils ont 100, il n'y a aucun intérêt à investir, et donc il faut dégager un certain profit qui repose sur l'exploitation du travail vivant et sur l'exploitation de la planète. Donc le capitalisme, sa finalité, et en même temps c'est une contrainte structurelle, c'est que le capitalisme doit croître. Il n'y a pas de capitalisme décroissant ou de capitalisme qui stagne, il doit croître, sinon il entre en phase de récession et de crise, et pour croître, il doit toujours plus détruire l'environnement et exploiter le travail vivant. Et donc, le capitalisme considère chaque entité nous, la nature, etc., comme une source de valeur qu'il faut vampiriser, selon l'expression de Marx, consommer et donc consumer. Ce qui fait que, par exemple, on va brûler chaque année des dizaines de milliards d'équivalents CO2 pour maintenir et accroître l'économie mondiale. Et on va détruire des millions d'hectares de sol, on va abattre des dizaines de millions d'hectares de forêts primaires et on va tuer des dizaines de milliards d'animaux d'élevage. Et ce qui faisait que Marx disait, tout progrès de l'agriculture capitaliste est non seulement un progrès dans l'art de piller le travailleur, mais aussi dans l'art de piller le sol. Tout progrès dans l'accroissement de sa fertilité pour un laps de temps donné est en même temps un progrès de la ruine des sources durables de cette fertilité. Et donc voilà, évidemment, le capitalisme est également responsable d'une énorme pollution nucléaire. Et tout ça, pour toutes ces pollutions, pour simplement que la valeur s'accroisse, que le cycle d'accumulation capitaliste se poursuive. Et donc du coup, comme l'a montré la critique de la valeur, le capitalisme en fait nous contraint à cette dynamique d'anéantissement du monde. Chaque entreprise doit, en raison d'une saturation tendancielle des marchés, donc fait qu'on n'arrive plus à vendre les marchandises, et d'une compétition généralisée pour vendre ces marchandises, produire toujours davantage de marchandises pour vendre moins cher, et donc polluer, consommer, consumer et gaspiller toujours davantage, d'une part, et éliminer toujours davantage de travail, parce que le travail c'est quand même un coût de production, et remplacer celui-ci par des machines et des robots qui évidemment polluent massivement. Et comme cette élimination du travail fait qu'il y a un manque de demande solvable, puisque ceux qui ne travaillent plus ont moins de revenus, ou ceux qui travaillent à temps partiel ont moins de revenus, ou quand on délocalise de France au Bangladesh, c'est évident que les travailleurs du Bangladesh vont consommer moins que les travailleurs français, puisqu'ils ont des salaires moins importants. Du coup, ça produit ce que la critique de la valeur a analysé comme une crise structurelle, durable, du capitalisme. Et du coup, ce qui contraint les entreprises à technologiser et à produire encore plus, c'est ce qui s'est passé notamment en Chine et en Allemagne après 2008. Ils ont relancé leur appareil de production à travers une débauche de technologies. On sait par exemple que suite à 2008, la relance chinoise s'est faite notamment à travers un énorme programme immobilier qui a utilisé il me semble, 6 gigatonnes de béton en quelques années. Ce qui fait que la Chine a utilisé pour son plan de relance après 2008 autant de béton que les États-Unis au XXe siècle. Et voilà, donc on voit comment est-ce que la dynamique du capitalisme en crise, et cette dynamique de crise du capitalisme aggrave la crise écologique. Ce qui fait qu'on pourrait dire que le capitalisme est une sorte de roue de hamster enflammée, et évidemment on est dans ce hamster enfermé en lui, un char, comme disait Marx, qui ne s'arrêtera lui-même qu'une fois qu'il aura détruit tout sur son passage, et pour prendre une autre métaphore de Marx, un Moloch, un dieu sanguinaire qui exige qu'on lui sacrifie l'ensemble du vivant, de son environnement et du climat. Et donc du coup, le capitalisme, on ne peut rien en attendre d'un point de vue écologique, puisque c'est une gigantesque méga-machine incontrôlable qui nous domine, et qu'en même temps, on est obligé chaque jour de reproduire en allant consommer et en allant travailler. Et du coup, il faut sortir radicalement du capitalisme et c'est évidemment l'objet de cette émission. Voilà. Alors du coup, pour voir comment... Alors évidemment, ce diagnostic qu'il faut sortir du capitalisme pour résoudre la crise écologique contemporaine, ce n'est pas le diagnostic de la plupart des écologistes et des courants écologistes actuels qui, au contraire, promeuvent une sorte de capitalisme vert, de capitalisme décroissant, de capitalisme citoyen, etc., etc., avec toujours un État, du capital, des entreprises, etc., etc. Et donc qui manque complètement les racines du problème écologique. Et sur cette voie, sur cette voie, je pense que effectivement, Murray Bookchin, notamment tel qu'il est présenté dans ce petit ouvrage, Murray Bookchin pour une écologie sociale et radicale, permet d'aller un peu plus loin dans cette compréhension de la crise écologique. Alors du coup, est-ce que Floréal, tu pourrais un peu nous résumer, voilà, cette tentative de dépasser à la fois le fait que l'anarchisme classique ne prenait pas assez en compte la crise écologique, et en même temps un dépassement de tous les apories, de tous les problèmes de l'écologie contemporaine et de l'écologie de son temps aussi, qui ne pensait pas du tout les problèmes du capitalisme, de la société de classe et de l'État.
Oui, alors évidemment, je suis tout à fait d'accord avec les positions que tu as faites. Par rapport à certaines choses, on peut même en rajouter, mais bon, déjà c'est pas mal. Je veux dire que le grand mérite de Bookchin, quand même, ça a été l'apport, un apport à la pensée libératrice. Non seulement à la pensée, à la théorie anarchiste, qui l'enrichit par la pensée écologiste, mais à l'inverse aussi. On peut dire qu'il a fait une synthèse entre l'anarchisme, le marxisme et l'écologie. Il a su prendre le meilleur pour en faire une théorie qui non seulement permet une compréhension des mécanismes d'aliénation de la nature et de l'être humain, mais aussi des propositions concrètes pour essayer de sortir de cette aporie justement dont tu parles, sociale, voilà, et politique. Donc, on peut dire que, bon, évidemment, on va voir tout à l'heure, on en parlera de ses insuffisances, il en a, c'est pas un dieu, c'est quelqu'un qui a essayé de faire. Un des rares, justement, une des rares personnes qui est allée aussi loin dans cette synthèse des différentes apportations qui peuvent donner une perspective d'avenir, quoi. Parce qu'actuellement, il faut dire que c'est assez bouché, hein. Voilà. Donc, lui, il a mis le doigt, effectivement, sur la première chose, la première cause des problèmes écologiques et de la pollution et de la destruction des écosystèmes. Qui font, qui menacent la vie sur Terre. Lui, il a situé ça, il a montré du doigt qu'en fait, les problèmes écologiques avaient leurs racines dans les injustices sociales, quoi. Voilà. Alors,
Dans la société de classe.
dans une société de classe, dans une société de domination, lorsque la domination s'installe en tant que structure sociale, à ce moment-là, les problèmes écologiques suivent automatiquement. Je vais donner un exemple, c'est un exemple que j'ai pris d'un conte, ou une légende de Gilgamesh, c'est celle de Gilgamesh. Donc Gilgamesh, c'est un roi qui domine, qui possède, il a une classe guerrière, sacerdotale, là-bas dans le croissant fertile, dans ce qu'on appelle, dans l'Asie mineure,
La
à l'époque,
Mésopotamie.
voilà, la Mésopotamie. Donc il possède les terres, l'eau, les métaux, les personnes, il possède tout, quoi. Il avait des canaux déjà organisés pour l'irrigation, puisqu'à cette époque, c'est à cause d'un changement climatique, d'après Bookchin, justement, c'est aussi intéressant. C'était un endroit où il y a un changement climatique il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, plus ou moins. Les sociétés s'adaptent, certaines s'adaptent mieux que d'autres, arrivent à engranger, et puis après, bon, d'autres n'arrivent pas à cette technologie, donc il y a un heurt entre les différentes tribus. Ils sont là, bon, petit à petit s'instaurent des sociétés guerrières et la domination devient une norme sociale. À ce moment-là, donc le roi, je reviens à Gilgamesh, il dit bon, effectivement, il y a toute une symbolique de la domination. Ça, c'est important maintenant, ça l'était tout le temps. C'est-à-dire que lui voulait construire un monument qui en jette, quoi, qu'on pouvait voir depuis loin, depuis très loin, une mastaba. Qui est l'origine des pyramides, qui sont déjà quelque chose qui est déjà plus élaboré avec une pointe. Est-ce que là, ça s'arrête? Il y a un moment, il y a un niveau, quoi, au sommet. Bon, tout ça représente le roi, les classes guerrières sur lesquelles il s'appuie et les classes sacerdotales, évidemment. Et en bas, il y a
Les
le
prêtres,
peuple.
la classe sacerdotale.
Voilà, c'est les prêtres. Voilà. Donc, c'est important pour lui de construire ce monument et il va donc remonter le Tigre. Et aller dans les forêts au nord. Et là, il se rencontre avec des tribus qui vivent encore, c'est les sociétés préalphabétisées, qui sont justement dans des relations horizontales. C'est plutôt des sociétés saines, pour reprendre le mot de l'expression d'Eric Fromm, quand il parle de sociétés saines et sociétés aliénées. C'est-à-dire que, bon, là, il n'y a pas des rapports de force, des rapports de domination,
Même s'il
mais
y en a un petit
surtout.
peu entre les hommes et les femmes,
Il y en a
mais...
toujours un peu, pas forcément au départ, pas forcément au départ. Peut-être c'est venu petit à petit et ça dépend aussi des endroits.
C'est
On
ça.
n'est pas, faut pas uniformiser, ni dans
Bien
l'histoire, ni
sûr.
dans le temps, ni dans la géographie, quoi. Ça peut être très différent d'une société à l'autre. Mais en tout cas, il n'y avait pas cette accumulation de richesses et cette nécessité de domination, quoi, structurelle. Donc elle était parfois ponctuelle, quoi, voilà. Donc il va voir, le chaman lui dit, le chaman qui est l'ancêtre du prêtre, hein, qui lui dit, non, non, tu ne devrais pas couper les arbres. Il dit parce que les dieux vont se retourner contre toi. Alors lui, bien sûr, haut de sa puissance, il dit, mais je n'ai rien à foutre de tes dieux, tu peux aller te faire voir, moi j'ai les miens, ils m'obéissent et ils sont d'accord avec moi, donc je coupe, il ne va rien se passer. Donc il détruit ce qui sont les coteaux au-dessus du tigre, hein. Il coupe les arbres, il les met dans l'eau, il les fait venir jusqu'à chez lui, c'est son territoire. Il fait construire la mastaba. Évidemment, quelques temps plus tard, ben, il se trouve qu'il y a eu des fortes pluies et ces fortes pluies entraînent l'eau qui était retenue par les arbres sur les coteaux, les entraînent dans le Tigre et le Tigre alimente les canaux. Et les canaux sont complètement anéantis, quoi. Ils sont bouchés et donc il n'y a plus de possibilité de récolte, plus de possibilité d'irrigation et la société du moment s'écroule, quoi. Voilà. Ça, c'est un exemple clair de la relation qu'il peut y avoir entre la structure sociale de domination et les dégâts écologiques. Mais si on s'en reprend à maintenant, quoi, si on refait l'histoire, si on remonte jusqu'à maintenant, évidemment, avec la naissance du capitalisme, c'est un autre tour de vis, parce que là, il s'agit plus de seulement une société de classe, c'est une société qui, évidemment, a ses classes, mais le fondement n'est pas le maintien de certaines classes, c'est le maintien du système lui-même, quoi, dont on parle tout à l'heure. Et donc, l'extraction, avant, on parlait de l'extraction directe de la surlabeur pour maintenir les classes possédantes. Mais
Voilà,
maintenant,
l'appropriation du produit paysan,
direct.
tout ça, ouais,
Voilà,
direct.
direct. Donc, vous voyez ce que maintenant, c'est un autre phénomène. C'est-à-dire qu'il y a une production pour la production, étant donné que ce qu'on recherche, c'est la valeur. Il peut y avoir, c'est plus une valeur d'usage, mais la valeur d'échange qui sert à toutes les spéculations possibles et imaginables. Et donc, on voit mal comment ce système pourrait justement pallier à ce besoin qui sera toujours inassouvi d'extraction de minerais, de ressources, ces ressources soient animales, humaines ou naturelles. Je veux dire,
Oui,
c'est
parce qu'en
pas.
plus, les besoins sociaux des classes dominantes précapitalistes sont forcément limités, puisque c'est des besoins sociaux, alors que par définition, disons, les nécessités structurelles du capitalisme de s'accroître, d'accroître toujours plus la valeur d'échange, l'argent, le capital, elle est illimitée, puisque
Est
évidemment,
illimité.
puisque évidemment les nombres sont illimités.
Oui. C'est, en fait, c'est ce que disait Marx aussi, c'est croître ou mourir, et c'est ce que reprend Bookchin d'ailleurs, croître ou mourir, voilà la société capitaliste, quoi.
Voilà.
Et donc là, ce qui fait aussi Bookchin, c'est qu'en même temps, quoi, il combat les tendances écologistes réformistes parce qu'il y a la tendance environnementaliste qui sépare justement la société de la nature, comme si la nature c'était quelque chose d'extérieur à l'être humain, extérieur aux sociétés. Or, on peut parler que on ne peut pas séparer les deux, c'est impossible. C'est une question, il n'y a que qu'une société perverse comme la nôtre qui peut séparer les deux entités, quoi.
Et d'ailleurs, Marx disait dans les manuscrits 1844, c'est un peu paradoxal puisque Marx, on pense tout de suite que c'est vraiment un moderne qui reprend le mot d'ordre de Descartes, rendons-nous comme maître et possesseur de la nature. Il dit en 1844, en montrant ainsi qu'il n'y a pas d'antinomie entre une critique radicale du capitalisme et une écologie radicale, il dit, l'homme vit de la nature, cela signifie que la nature est son propre corps avec lequel il doit rester constamment en contact pour ne pas mourir. Dire que la vie de l'homme est liée à la nature, c'est dire tout simplement que la nature est liée à elle-même, car l'homme est une partie de la nature, et c'est le travail qui rend étranger à l'homme la nature et lui-même. Donc du coup, pour Marx, en fait, l'aliénation qui est le fait donc de se déposséder de soi à travers la vente de la force, à travers la vente de sa force de travail, se reconduit un petit peu dans le rapport à la nature, c'est-à-dire le fait que le travail va nous opposer à la nature, puisque c'est simplement voilà, une simple matière première qu'il faut transformer, détruire, consumer, etc., pour faire tourner la machine,
Ouais,
quoi.
comme l'homme lui-même d'ailleurs.
C'est
Enfin.
ça.
Donc oui, donc Bookchin, ce qui à son époque, quoi, il a beaucoup combattu aussi donc l'environnementalisme, qui ne sert qu'à préserver les ressources pour faire perdurer un peu plus le capitalisme, et combattre cette séparation nature-société. Et d'autre part, il détruit aussi il met dos à dos les rapports de domination qui puissent exister entre l'homme et la nature. Aussi, le côté sombre de Marx, il y a le côté lumineux, comme Bookchin en parle bien, du côté lumineux de Marx et le côté aussi côté sombre de Marx, lorsqu'il se place en économiste et qu'il dit finalement la nature est avare. Et il justifie la domination de l'homme par l'homme par la nécessité d'être efficace dans l'exploitation de la nature. Donc ça, il le remet en cause, évidemment. Et il remet en cause aussi l'autre côté, c'est-à-dire la réaction écologiste à ça, en disant « Non, nous, on doit obéir à la nature. » C'est toute la théorie de l'hypothèse Gaïa et tout ça. Donc on doit se plier à la nature. Lui, il remet ça tout à fait en cause et il dit « Les rapports de domination, en fait, ne doivent pas exister, c'est pas un problème, c'est pas une nécessité, quoi. Autant se soumettre à la nature que de la dominer n'est pas du tout une nécessité. Simplement, il faut s'intégrer dans les écosystèmes et faire en sorte que la société ne soit pas étrangère aux écosystèmes, mais qu'elle s'y intègre totalement.
Bien sûr.
Voilà. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'il y a un discours de l'écologie politique. Mais évidemment, Bookchin écrit en 63 tout ça, et en même temps, il y a Rachel Carson qui écrit aussi. Donc, Rachel Carson, c'est son livre
Le Printemps silencieux.
Voilà, Le Printemps silencieux, qui explose, en maison d'édition, mais celle de Bookchin non, parce qu'elle, elle ne remet pas en question le système, tandis que Bookchin le remet.
Donc, oui, elle veut l'adapter, un capitalisme agricole, mais pas chimique.
Voilà, exactement. Donc après, on a aussi, évidemment, la critique du capitalisme. Il fait déjà une critique du capitalisme vert, en disant, bon, ce que tu disais tout à l'heure, mais quand on pense que la pollution devient source de profit, ben pourquoi on ne continuerait pas à polluer, hein? Comment on appelle ça?
Le marché carbone.
Voilà, le marché carbone, par exemple. Donc, il n'y a pas de solution. Et bon, quand on voit maintenant que les entreprises polluantes se mettent au vert, je veux dire, Bayer, il a sa section aussi d'agroécologie, quoi, hein. Donc, on produit des intrants et on fait descendre les exigences de l'agriculture bio, par exemple. On la fait descendre pour que ces entreprises puissent jouer davantage le temps, quoi.
Bien sûr.
Et on se rend compte, en fait, que l'écosocialisme, il te fait une analyse quand même assez intéressante, mais il ne va pas jusqu'au bout de son analyse, puisqu'il ne considère que l'État peut faire quelque chose pour remédier, pour pallier à à la prédation naturelle du capitalisme, quoi. Il peut servir de tampon. Oui. Or, lorsqu'on considère que l'État est une structure capitaliste, on ne peut confier en l'État, quoi. Et c'est là le grand tort, et c'est là le grand tort d'un manque d'analyse. On n'a pas voulu écouter Bookchin à ce moment quand il a dit nous les Verts, nous les anarchistes, il expliquait très bien que, en fait, passer par l'État, c'était se mettre dans l'œil, quoi. Je veux dire, c'était céder au capitalisme, quoi, en fait.
Oui, parce que la logique de l'État, pour fonctionner, il a besoin, pour financer son armée, sa bureaucratie, sa police, etc., il a besoin d'argent. Cet argent, il va la ponctionner sur l'économie réelle, qui, plus elle croît, plus il peut la ponctionner et plus il peut être puissant. Donc c'est pour ça que l'État historiquement était un agent de modernisation et d'accroissement perpétuel du capitalisme, en France pendant les 30 Glorieuses par exemple, en Angleterre avant, et donc effectivement l'État ne va pas saborder sa base, c'est évident, et donc du coup attendre de l'État qu'il saborde sa base financière au nom de considérations écologiques, oui c'est un petit peu comme effectivement attendre que les entreprises sacrifient leurs profits, et sacrifie la création de valeur pour des impératifs écologiques. C'est complètement...
Donc oui, c'est tout un effort qu'il y a eu de la part de Bookchin d'essayer de convaincre surtout les écologistes allemands qui étaient très puissants à l'époque et qui avaient développé des systèmes de fonctionnement très intéressants, hein, qui partaient de la base, qui... Eh bien, à partir du moment où ils sont rentrés dans une dynamique de captation de l'État, d'essayer de rentrer au niveau... par les élections et tout, eh bien, ils ont détruit leur propre base, quoi.
Oui,
on en reparlera tout à l'heure, mais c'est le même truc qui se passe avec Podemos et qui se passe
Comme les partis ouvriers au début du XXe siècle, voilà, les partis marxistes.
Exactement. Donc c'est vraiment, je ne comprends pas qu'encore on n'ait pas encore été capable dans les milieux écologistes de voir, et dans les milieux alternatifs aussi, de voir que c'était le piège, quoi.
Mmh, bien sûr,
le piège. Voilà.
Comme l'économie verte, l'État vert, la politique
oui,
verte.
Oui, comme le capitalisme, bon enfant, quoi. Hein,
ouais, à visage humain.
Les
mêmes fadaises, oui.
C'est vraiment, voilà.
C'est vrai que finalement, on pourrait dire que le mouvement écologique passe par toutes les phases par lesquelles est passé le mouvement ouvrier, c'est-à-dire le réformisme, la croyance en la social-démocratie.
Voilà, etc., exactement. Etc. Oui, non, c'est vraiment les mêmes travers. les mêmes travers. Et lorsqu'on voit actuellement, par exemple, des écologistes qui semblent assez radicaux, comme peuvent l'être, par exemple, tu prends Hervé Kempf ou cette tendance de reporter, on se rend compte des insuffisances totales, quoi. Je veux dire, on reprend des discours comme si on n'avait rien appris du passé, quoi. C'est ça qui est un peu attristant dans les mouvements et qui essayent de changer. C'est qu'en fait, on ne tient pas compte du passé, on ne tient pas compte de l'histoire. On ne tient pas compte des leçons de nos ancêtres qui ont fait des erreurs. Et justement, apprendre l'histoire, c'est apprendre les erreurs, mais aussi les bonnes choses qui ont eu lieu, les lueurs qu'il y a eu dans l'histoire et qui permettent de voir un monde différent, un monde possible différent. Pas un monde possible dans ce monde. C'est impossible. Il faut vraiment changer les structures à fond et se débarrasser du capitalisme, évidemment.
Et du coup, est-ce que peut-être tu pourrais parler de 1936, puisque 1936, c'est un exemple historique de tentative, enfin, la tentative de sortie du capitalisme la plus aboutie à ce jour. Est-ce que tu pourrais parler notamment de la réflexion écologique qu'a eu la révolution de 1936? On a fait
Oui.
une, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission, on a fait une émission là-dessus avec les géminologues qui sont un peu aujourd'hui parmi les spécialistes, entre guillemets, hein, de la révolution espagnole de 1936-1938 en Aragon et en Catalogne. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu justement de la dimension écologique de cette révolution?
En fait, la révolution espagnole, on a tout. On a les lueurs et aussi on a le côté sombre de la révolution, c'est-à-dire les incapacités aussi qui ont été manifestes à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le parcours de la révolution espagnole. Je veux dire, la révolution espagnole n'arrive pas du jour au lendemain. La révolution espagnole se prépare déjà 50 ans avant, à la fin du 19e siècle, par la création de l'anarcho-syndicalisme notamment. Mais pas seulement, il y avait aussi des groupes qu'on disait individualisme, mais finalement qu'il ne l'était pas autant qu'on le dit de la façon dont on le voit en France. C'est-à-dire qu'ils collaboraient beaucoup avec les anarcho-syndicalistes. Et il y avait plusieurs tendances, évidemment, là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout le travail qui a été fait. Je veux dire que ce n'est pas Nuit debout, ni le 15e, les indignés en Espagne, qui peuvent changer les choses en un printemps, en un été. Je veux dire, ça, c'est un travail de longue haleine. Et donc, il y a eu le mouvement anarchiste espagnol, ce qui est plus intéressant, c'est de voir la globalité des aspects qu'il touchait, quoi. Il touchait tous les aspects de la vie. C'est-à-dire, on parlait de l'éducation des enfants. On parlait de la connaissance de la nature, justement. Toutes les écoles, par exemple, on prend des écoles les plus fameuses de Barcelone, les écoles qui étaient financées par les syndicats, qui s'appelaient Natura, où les enfants, par exemple, étaient en contact direct avec la nature, ils faisaient du jardinage, ils se promenaient, ils se baignaient à poil, je veux dire, c'était un contact naturel. La nature. Donc c'était un amour de la nature qui n'était pas un amour livresque, c'est un amour véritable parce qu'il y avait une
Il
confrontation.
y avait une pédagogie
Voilà,
libertaire
il y
en
a une
plus.
pédagogie tout à fait libertaire. On employait des méthodes de Montessori, on employait des tas de méthodes, Freinet et tout, pour justement inciter les enfants, non pas à être des anarchistes, hein, non pas avoir une tête bien pleine, mais avoir une tête bien faite, capable de raisonner, capable de s'affronter aux problèmes et essayer de les résoudre, quoi. Voilà. Et donc ces gens-là allaient se promener dans les Pyrénées, enfin c'était des balades instructives, comment ça fonctionne et tout. Et puis il y avait tout un. Donc il y avait le courant aussi. Tous ces courants-là se sont rejoints. Il y avait l'urbanisme social, un urbanisme qui était pensé à partir des théories de Goetz, des apportations de Kropotkine et de Reclus. Donc, il y avait toutes ces tendances, finalement, n'étaient pas séparées. Elles étaient, donc, on arrive en 1936 avec, par exemple, Isaac Puente qui a écrit Le communisme libertaire,
Ouais,
qui était un
incroyable.
médecin, on pourrait dire, alternatif aujourd'hui, quoi, parce qu'il récusait la théorie microbienne
Des
de
maladies.
Pasteur, et en disant, la cause n'est pas, ne sont pas les microbes, la cause, ce sont les conditions sociales dans lesquelles on vit. Donc, nous faire croire que c'est les microbes, c'est détourner le problème. Donc, je reprends toutes ces tendances, quoi, de.
Et l'urbanisme, justement, tu pourrais penser comment est-ce que, par exemple, les révolutionnaires espagnols repensaient complètement la
Ah
ville?
oui, tout à fait. Mais justement, c'est parti de. Pour moi, ils avaient inventé l'écologie sociale déjà avant Bookchin, quoi. Pourquoi? Parce que leur proposition, c'était, bon, eh bien, voyons comment on pourrait penser dans une société post-capitaliste, comment on peut penser une chose, comment on peut fonctionner les villes. Une ville, par exemple, ne devait pas excéder les 100 000 habitants parce qu'on risquait de ne plus pouvoir, ne plus être un écosystème qui s'imbriquait dans les écosystèmes. Ça pouvait être qu'un monstre, ce qui est devenu actuellement, quoi. Je veux dire, c'est un vampire, c'est une excroissance, c'est un cancer social, une ville. Parce qu'elle bouffe beaucoup Et puis, elle pollue énormément, quoi. Alors que dans le système.
Et elle est invivable en plus, donc.
Elle est invivable. Alors, c'est pas humain, quoi. Alors que dans le système qui était prévu par les anarchistes espagnols en 1936, c'est-à-dire la ville ne dépasse pas un certain seuil de population. La ville, c'est un organisme vivant, donc il respire. Donc, on a beaucoup d'arbres dans la ville. On a aussi. Il mange. Donc, on crée. L'agriculture se fait aussi à l'intérieur des villes, par du maraîchage. Hein, on ne peut pas dire qu'on va tout produire dans la ville, mais enfin, déjà une grande autosuffisance alimentaire. On va réduire la circulation des voitures à l'intérieur. Hein. On va faire en sorte que le soleil rentre dans toutes les maisons. Donc, on va faire des maisons à 2 étages. Hein. Et puis, on va essayer de faire en sorte que ce qui sort de la ville ne pollue rien. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de filtres, comment on appelle ça, de recyclage de l'eau, de recyclage par le compost aussi des excréments et tout, qui fait en sorte que voilà, ça sorte de propre. Et puis on utilise des énergies renouvelables, quoi, le vent, l'eau. Tout ça, c'était prévu, non seulement au niveau des villes, c'était prévu dans toute la Catalogne. Voilà, comme un ensemble, quoi. Vu comme un ensemble, hein, en essayant de chercher, après les leçons de tous les théoriciens, par exemple, comme Kropotkine, Élisée Reclus, et toutes ces apportations.
C'est vachement intéressant parce qu'effectivement, c'est là qu'on voit que la, enfin, un des autres apports de la Révolution espagnole, parce que à la fois le fait d'avoir repensé complètement l'urbanisme, parce qu'effectivement, dans une autre émission, j'ai beaucoup parlé de l'Aragon, des communes paysannes qui fonctionnaient non pas selon la logique de la production de marchandises, le travail marchandise, la production de valeur, etc., etc., mais plutôt où les activités qui devaient être faites ou que les gens avaient envie de faire étaient déterminées collectivement, les gens allaient faire ce qu'ils avaient plutôt envie de faire, et ensuite, le produit de toutes ces activités librement choisies était partagé non pas en fonction du temps de travail effectué, donc pas tout travail mérite salaire comme logique, mais plutôt de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Bon, on a expliqué ça plus longuement dans l'autre émission avec les géminologues, mais tout ça pour dire que ce qui est intéressant, c'est le fait effectivement que enfin, une transformation radicale de la société. Ça implique tout un tas d'aspects, notamment les aspects écologiques et notamment voilà cette transformation des structures sociales au fondement de la vie. Et c'est vrai que là, si on imagine un petit peu voilà Barcelone de 1936 transformée selon cette logique un petit peu du communisme libertaire, on peut se dire qu'on est on est déjà sur quelque chose quand même de relativement ambitieux, surtout si c'était plutôt les tendances communisme libertaire qui l'avaient emporté, parce qu'il y avait des tendances un peu bureaucratiques au sein de l'anarchisme pénal, mais je reviens pas là-dessus. Et donc du coup, ça me fait aussi penser à une réflexion, parce que Marx avait un petit peu réfléchi quand même aux questions écologiques au 19e siècle, il réfléchissait notamment au fait que les villes que les villes avaient toujours plus de besoins en termes de nutriments et donc du coup que ça asphyxiait les sols, qu'il y avait des problèmes de fertilisation des sols et que en même temps tout ce qui pouvait servir de fertilisant dans les villes était transformé en déchets et était accumulé dans des endroits où comme dans les déchetteries par exemple où c'était une horreur sanitaire et écologique et du coup lui essayait de penser du coup, cette disruption, enfin, cette séparation entre d'une part des villes qui produisent énormément de choses qui pourraient être utiles, mais qui ne sont pas réutilisées dans l'agriculture, et une agriculture qui est ponctionnée, et du coup, ce qui entraîne plein de problèmes de fertilisation. Et c'est pour ça qu'il y a eu d'abord l'utilisation d'engrais naturels qui étaient cherchés à l'autre bout du monde, le guano, qui ont causé des guerres, les guerres la guerre des nitrates, vraiment, qui posaient quand même un certain nombre de problèmes. Et ensuite, il y a eu l'agriculture chimique qui pose aussi tout un tas d'autres problèmes. Et du coup, lui pensait que voilà, il fallait dépasser le capitalisme pour résoudre ce problème de ce qu'il appelait la rupture métabolique, c'est-à-dire le fait que l'homme n'est plus l'homme, enfin en tout cas l'homme urbain n'est plus dans un métabolisme avec la nature, dans où il y a des flux qui circulent et qui s'alimentent, mais une espèce de séparation qui pose énormément de problèmes. Et là, la ville que tu nous décris, Barcelone, vue par un peu une espèce d'urbanisme anarchiste écologique, c'est justement une sorte de réponse un petit peu à ce problème-là.
Oui, bien sûr. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que on reprend jamais les choses à zéro. Quand tu vois, par exemple, l'anarchisme espagnol, ce qu'il a su faire, c'est de prendre, par exemple, les apportations d'un Kropotkin, par exemple, dans champ, usine et atelier. Déjà, Kropotkin avance cette nécessité de ne pas séparer l'agriculture de la ville, parce que, justement, ça, pour éviter les spéculations au niveau de l'alimentation, quoi, par exemple, les spéculations capitalistes, quoi. Hein. Et puis, Kropotkin, quand même, est à l'origine d'une forme d'agriculture qui s'appelle l'agriculture, bon, je ne me rappelle plus exactement le terme, maintenant ça m'échappe.
Organique.
Permaculture, justement. Bill Mollison, dans son livre sur la permaculture, reprend et fait hommage à Kropotkin dans un premier temps. Après, c'est utilisé dans une forme qui n'est pas, à mon avis, n'est pas adaptée vraiment.
Et qui aujourd'hui est complètement capitaliste.
Ben voilà, c'est comme tout, quoi. Je veux dire, voilà.
Comme tout, oui. Capitalisme récupère tout.
Tout ce qui n'est pas capable de dépasser le capitalisme est repris par le capitalisme.
Bien sûr. Voilà, c'est ça.
Voilà, donc on ne peut pas s'arrêter. Il faut continuer vraiment à construire, quoi, et quelque des choses pour sortir de là. Et ce que je voulais dire aussi, parce qu'en fait, le but de tout ça, c'est quoi? C'est le bonheur humain. Quand tu vois, par exemple, tu regardes le vidéo sur la Révolution espagnole qui s'appelle « Vivre l'utopie », je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est
oui,
ça
oui,
vaut le coup
sûr.
De voir quand tu vois le visage des gens, la joie des gens,
bien
parce
sûr.
Que ils ont dépassé l'individualisme, ils sont allés au-delà de l'individualisme bourgeois pour arriver justement à créer des liens. Et c'est ces liens qui font la
Et des liens non hiérarchiques, en plus.
Voilà, des liens non hiérarchiques, des liens qui permettent à chacun de s'épanouir, où tout le monde où le minimum irréductible est garanti pour tout le monde, c'est pour tout le monde, quoi, pour tous
ceux
qui
habitent. Oui, et hors de la logique capitaliste.
Voilà, hors de l'argent, hors des logiques de l'argent, quoi, par exemple, tu vois. Mm-hmm. Et que chacun puisse s'exprimer et s'épanouir, et se créer, justement, avec l'approbation des autres, avec le consentement, et même la valorisation des autres. C'est ça le vrai bonheur humain, quoi. Et c'est là qu'on voit que le capitalisme n'arrivera jamais à nous apporter le bonheur, quoi. Le bonheur individuel, c'est l'antithèse, quoi. C'est écraser les gens, quoi. Alors ça, c'est important, parce que le but de la révolution, en fait, c'est ça, c'est le bonheur d'humanité, et c'est cette relation humaine et des liens affectifs très serrés en relation avec la nature, justement. C'est ça, c'est que on n'est pas tout seul comme création sur Terre, quoi. Et c'est cette diversité, justement, dans l'humain, cette comparaison qu'a fait Bouchine entre la diversité, la biodiversité dans les écosystèmes et la biodiversité entre les humains en développement chacun notre individualité, non pas notre individualisme, qui fait qu'on s'enrichit les uns les autres et que ça devient passionnant, quoi. La vie devient passionnante.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que Marx disait dans l'idéologie allemande, donc qui est écrit en 1845, que le rapport qu'on entretient à la nature, et c'est un peu une idée que Bookchin reprend un petit peu, que le rapport à la nature est déterminé par le rapport aux autres. Donc si c'est un rapport évidemment hiérarchique et de compétition généralisée pour vendre des marchandises, pour vendre notre force de travail, évidemment si ce rapport donc est belliqueux et hiérarchique, évidemment le rapport à la nature sera au non-humain sera identiquement belliqueux, puisque voilà, il s'agira de prélever ce qu'il faut pour produire les marchandises, et peu importe à quel prix, à quel coût écologique et à quel coût humain.
Oui. Après, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire penser que à partir du moment où ce qui est plus important, c'est le rapport à l'animal. Par exemple, supposons Göring, paraît que quand il y avait des bombardements, la première chose qu'il importait, c'est au risque de sa vie, c'est sauver son cheval. Tu vois, alors qu'il était prêt à assassiner, enfin qu'il avait assassiné déjà des millions de juifs, quoi. Tu vois, ça aussi, c'est ça l'autre côté de l'écologie profonde qui fait que les êtres humains deviennent misanthropes. Et le plus important, ce ne sont plus les humains, c'est ce qu'est le discours actuel, c'est la nature. Oh, la pauvre nature, on est en train de l'abîmer, mais les autres humains, ça n'a pas d'importance, quoi. Tu vois,
c'est ça. Voilà. Ça peut être aussi justifié de même manière. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement une écologie sociale et anticapitaliste, libertaire, qui, de par une transformation avant tout des sociétés humaines dans un sens anticapitaliste, dans le sens du communisme libertaire, qui arrive à un nouveau rapport à la
Bien
nature qui
sûr,
soit un
en
rapport
fait c'est la
sain.
société qui détermine le rapport à la nature,
C'est
c'est pas
ça.
nous en tant qu'être humain, en tant qu'individu, quoi, je veux dire, c'est
Et ce que
évident.
Bookchin disait là-dessus, c'était assez intéressant. Tu pourrais rappeler justement, du coup, ce que disait Bookchin sur le fait qu'il fallait ni être dominé par la nature, ni dominer la nature?
Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, justement, c'est la réflexion qu'il faisait par rapport à l'écologie profonde, où il disait que cette écologie profonde, à un moment donné, comme réaction au problème des rapports entre l'être humain et la nature, bon, ben, comme réaction, si tu veux, de la domination des sociétés capitalistes sur la nature, ils en sont venus à croire qu'il fallait vraiment se plier aux lois de la nature, quoi. Hein, aux lois de la nature. Alors bon, déjà, faut savoir ce que c'est que les lois de la nature. Et puis après, dire que, comme l'hypothèse Gaïa, que quand la Terre en a marre, elle se met à trembler, qu'elle nous punit, ça revient à déifier la nature, ce qui n'est pas du tout le
C'est
cas. Nous,
ça. C'est
on
un
fait
nouveau
partie. Donc
fétichisme.
lui, ce qu'il fait, c'est qu'il renvoie dos à dos les deux positions de domination, c'est-à-dire l'hypothèse de la domination nécessaire des sociétés humaines sur la nature pour, parce que la nature étant radin, étant, voilà. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de marxistes qui ont considéré que la nature, comme
Était avare.
était avare. Oui,
Oui,
oui.
c'est ça.
Sartre parle des fanges, de la nature comme étant la fange, quoi. Tu vois,
Oui, bien sûr.
c'est un mépris de la nature, quoi.
Et du coup, c'est intéressant parce que justement, un des problèmes de l'écologie profonde, c'est que elle peut aussi, du coup, retomber dans une espèce de conception organiciste ou naturaliste de la société, et du coup dire bon bah voilà, la domination masculine c'est naturel, que le
Ouais,
règne des plus
ouais.
forts c'est naturel, et on voit toute une récupération aujourd'hui de l'écologie profonde par l'extrême droite néo-païenne qui va dire oui, les païens ils obéissaient à la nature, ils vénéraient des arbres, mais d'un autre côté, c'était une société de domination masculine assez brutale et une société très hiérarchisée avec des esclaves et
Tout
tout
à
ça.
fait. Murray Bookchin en parle très bien dans son livre Une société à refaire. Il parle des divers courants de l'environnementalisme et de l'écologie, quoi, d'écologie profonde. Enfin, il y a plusieurs types d'écologie qui sont complètement rétrograde et réactionnaire, qu'on
C'est
peut
ça.
dire. Donc, effectivement, il reprend tous les arguments aussi qui ont été mis en avant par les darwinismes sociaux, hein, les darwinistes sociaux, et que déjà à son époque, Kropotkine avait repris, quoi, en disant non, et je regrette, mais le plus important dans l'évolution des espèces, ce n'est pas la lutte des individus les uns contre les autres, ou les luttes des espèces les unes contre les autres, mais c'est la collaboration. Et c'est la coopération qui fait que certains individus ou certains groupes d'espèces sont capables de survivre, de se dépasser, quoi.
Mais en tout cas, enfin, c'est vrai que là, ça, c'est un apport de Bookchin aussi de penser cette espèce d'une écologie sociale et pas une espèce de plutôt à l'inverse de société qui doit obéir aux lois de la nature et où en fait
Oui.
on finit par tout justifier par avec la nature,
Voilà,
quoi.
ce qui est important, c'est que pour Bookchin, l'être humain a une importance dans la nature. Voilà. Et ce que viennent à nier certains écologistes, c'est que bon, l'être humain, finalement, c'est qu'un parasite, quoi. Hein? On arrive à un truc complètement destroy, quoi, de penser que l'être humain, en fait, c'est les méchants, quoi. Et le discours actuel n'est pas loin d'être comme ça, hein, de dire on n'y peut rien, on est vraiment méchants, quoi, on est vraiment destructeurs de la nature, on nous culpabilise à
Ça
mort,
permet
hein.
d'incriminer toute l'espèce humaine et
Voilà,
pas des formes de société.
exactement,
Et de
exactement. C'est
réduire
ça
à
que Bookchin,
l'impuissance
c'est
aussi.
ça que Bookchin a beaucoup, beaucoup insisté. Il a beaucoup travaillé sur ce thème de dire on ne peut pas considérer l'espèce humaine. Ce n'est pas l'espèce humaine, ce sont les types de sociétés qui soit sont adaptés à la nature, aux écosystèmes, ou alors ils sont contre la nature. Mais ça vient du type de. Et justement, c'est cette nécessité d'alimenter les structures hiérarchiques de domination qui font qu'une société est destructrice. Voilà. C'est ça principalement.
Bien
D'ailleurs,
sûr.
on peut voir dans l'histoire et.
Et que ce soit la domination de classe ou et encore plus la domination impersonnelle du capitalisme, c'est-à-dire le fait
Ah
qu'il
oui,
faut obéir aux lois de l'argent, du marché, tout
là
ça.
la compétitivité, elle est sans. On ne peut pas l'arrêter, quoi. La
Et l'État, oui, bien
compétitivité,
sûr.
voilà. Et l'État, il est là. Le rôle de l'État, c'est important de le signaler, hein. L'État, c'est un régulateur pour permettre que tout continue.
C'est
Voilà. Ça,
ça.
c'est important de bien faire comprendre
C'est pour ça qu'il
que.
construit des nouvelles lignes de TGV, des
Voilà,
aéroports, le
on peut
Grand
dire,
Paris, tout
on peut
ça.
dire, on fait le grand cirque de la COP 21, la COP 22, Hein? On fait croire aux gens, bon, ben ça, c'est les États qui organisent.
Bien sûr.
Hein? Il faut organiser ça pour contenter les écologistes, pour dire non, non, vous inquiétez pas, nous, on est là, on fait le travail qu'on a à faire, on va vous préserver avec des lois et tout ça. On sait très bien que ça marche pas. Bon sang, depuis le début que ça existe, on voit bien qu'on a reculé, on a toujours reculé par rapport à tout ça. Et il serait temps qu'on se réveille et qu'on dise basta, ça suffit, quoi.
Ouais, il est qu'une écologie efficace ne peut être radicalement anticapitaliste et libertaire.
Évidemment,
Voilà.
évidemment.
Et du coup, bah, on va faire une pause musicale avant d'entamer une deuxième partie où on reparlera de Murray Bookchin, notamment de sa pensée très intéressante sur la technologie, du coup, qui est une vision assez équilibrée. On reparlera aussi du coup un peu des limites de Murray Bookchin et on reviendra plus en profondeur sur les différents courants écologistes contemporains et les problèmes que leur position pose justement. Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à Murray Bookchin et à une écologie sociale, libertaire et anticapitaliste. Alors dans la première partie de l'émission, on a présenté plus ou moins les thèses de Murray Bookchin, on a discuté d'un certain nombre de choses. Et notamment du fait que, évidemment, pour sortir de la crise écologique, il fallait sortir du capitalisme. Et donc j'aimerais préciser un petit peu ce qu'on peut entendre du coup par sortir du capitalisme dans le contexte de la crise écologique. Évidemment, sortir du capitalisme, c'est sortir de la production de marchandises dont la logique même est à la racine de la crise écologique. Et donc ça implique également de sortir du travail producteur de marchandises, puisque c'est une des bases structurelles du capitalisme, le travail entendu comme forme moderne de l'activité, disait Marx, c'est-à-dire le fait que l'activité devient une marchandise qu'on vend, et une marchandise qu'on vend qui va produire des marchandises qui génèrent tout un tas de conséquences écologiques néfastes, d'autant plus que comme il s'agit avant tout d'être rentable et compétitif, eh bien, ces marchandises sont produites à un coût écologique très important. Alors, évidemment, on l'a déjà dit, sortir de la crise écologique, c'est évidemment sortir de l'État, puisque l'État est ce qui garantit la société capitaliste, société qui détruit l'environnement, et aussi parce que l'État non seulement garantit le processus de destruction capitaliste de la nature, mais aussi y a intérêt, parce que c'est de ce processus de destruction capitaliste de la nature qu'il va retirer, sous forme d'impôt, l'argent qui va lui permettre d'une part, de maintenir ces appareils principaux, l'armée, la police, la bureaucratie, etc., etc. Et d'autre part, qui va lui permettre de réinvestir une partie de cet argent dans la poursuite de l'accumulation destructrice du capital en construisant des centrales nucléaires, le Grand Paris, etc., etc. Alors qu'au contraire, une sortie du capitalisme doit être conçue comme voilà, une société comme une société sans État, au-delà de l'État, qui s'auto-institue à travers des communes, mais ça on va en reparler. Et ça implique évidemment une rupture avec la matérialité capitaliste, c'est-à-dire que la logique de production de marchandises qui est aux racines de la crise environnementale, elle produit une matérialité, une technostructure qui va être adéquate à cette finalité d'une production toujours plus importante de marchandises pour produire une valeur et un profit de plus en plus important ou à minima, puisque il y a une crise structurelle du capitalisme, comme je l'ai expliqué au début de cette émission, ou au moins produire à minima un taux de profit minimum. Et du coup, sortir, ça implique également de repenser, sortir la crise écologique, bon, c'est une banalité, ça implique de repenser cette technostructure qui est adéquate à la logique destructrice du capitalisme. Et Marx disait d'ailleurs dans le Capital que de l'industrie, qu'elle est, alors de l'industrie, disons comprise comme la grande industrie et pas comme un moulin à vent, évidemment, hein, que cette grande industrie est la forme spécifiquement capitaliste du procès social de production. Ce qui fait que, évidemment, on ne peut pas se réapproprier de manière écologique, entre guillemets, toute la matérialité et la technostructure capitaliste, mais il faut transformer celle-ci. Et donc, du coup, transformer celle-ci, abandonner une partie des infrastructures, par exemple les centrales nucléaires, et les gérer, hein, évidemment. Détourner toute une partie de l'infrastructure qui existe et qui est compatible avec une nouvelle logique sociale et une nouvelle logique écologique. On peut détourner des routes, des bureaux, des petits ateliers, même un certain nombre de petites industries, etc., etc. Et évidemment, inventer, réinventer ce que Illich appelait des outils conviviaux, des techniques autonomisantes, etc., etc. Et évidemment, repenser le lien entre l'urbain et le rural, c'est-à-dire en finir avec d'une part des gigantesques métropoles et couper couper de la nature et en même temps un désert rural comme aujourd'hui, à travers plutôt ce que Marx et Engels appelaient une sorte de dispersion, c'est-à-dire plutôt arriver sur des petites villes, des
Ce que
villes.
Bouchine appelle la décentralisation.
C'est ça, ce que Mouchine appelle la décentralisation. Alors peut-être que du coup tu pourrais rebondir là-dessus,
Oui.
sur le fait, voilà, sur la question de la technologie et de la décentralisation dans l'œuvre de Mouchine dont tu parles dans ce livre.
D'accord, c'est important parce que bon, l'écologie sociale, on peut la considérer de deux façons. On peut la considérer comme une analyse, comme on en a parlé tout à l'heure, du système dans lequel on se trouve, immergé dedans, quoi, le capitalisme. Et puis, ça nous sert évidemment pour déjouer les pièges aussi de ceux qui pensent qu'on peut retourner la domination dans l'autre sens. Enfin, tout ce qui est réactionnaire, quand même, l'écologie sociale nous permet de faire des analyses assez pointues. Maintenant, ça permet aussi d'envisager une société différente. C'est-à-dire qu'on voit une société, par exemple, comme tu parlais tout à l'heure, décentralisée. Donc c'est à la fois un outil d'analyse et à la fois un résultat. C'est-à-dire une société qui est complètement intégrée dans les écosystèmes et qui, au lieu de pomper les écosystèmes, va essayer de les enrichir. L'être humain n'est pas un être neutre dans un écosystème. Il n'est pas un être non plus passif. C'est un être actif. Donc son rôle, ça serait plutôt d'enrichir les écosystèmes. C'est pas vouloir faire preuve d'être un dieu que de le penser, simplement parce que l'être humain est un être créatif de par soi. D'ailleurs, l'être humain qui n'est pas
Ils
capable,
sont l'être humain et la nature doivent être coproductifs, en fait, être
évidemment,
coproduits.
évidemment, et ça rejoint un peu la thèse aussi d'Eric Fromm qui dit que l'être qui n'est pas créatif devient destructeur. Donc, le but d'une société écologiste, c'est de donner les moyens aux êtres d'être créatifs, et d'être créatifs envers les autres personnes, et d'être créatifs envers l'environnement. Et lorsqu'on met en œuvre une société sans domination, comme il s'est passé en Espagne, on voit les capacités qui sont libérées au niveau de la créativité, quoi. C'est vraiment impressionnant. On s'en doute même pas. Voilà. Donc,
Et alors au niveau technologique,
voilà, la technologie, par Bookchin, lui, ne la rejette pas entièrement. Il y a eu des acquis de technologie qui sont intéressants, d'autres qui sont à rejeter complètement. Il est évident que la technologie, c'est un produit de la société capitaliste. Pratiquement toutes les technologies, mais il y a des technologies qu'on peut quand même détourner, comme tu disais tout à l'heure, pour les mettre au service de la société, et une société rationnelle, une société égalitaire, une société en phase avec la nature. Évidemment, par exemple, je prends le thème du goutte à goutte, par exemple, dans des endroits comme là où j'habite, en Andalousie, où il y a très peu d'eau, ça économise une quantité d'eau impressionnante. Hein, ce que je disais tout à l'heure, sur une route, par exemple, d'avoir quand même pour ouvrir une route ou une voie de chemin de fer, mettre 100 personnes qui vont travailler à un rythme très lent, dans des conditions sous le soleil et tout, d'une façon bestiale, il est évident qu'une machine, une simple machine, peut faire le travail de 100 ouvriers, mais en rien de temps, quoi. Je veux dire, ça, il faut s'en rendre compte, il ne faut pas négliger la technologie. Mais, voilà, là où est la question, qui décide de quoi? D'abord, il faut décider de nos besoins. Une fois qu'on a décidé de nos besoins et de nos... de nécessité, quoi, parce que ce sont pas que seulement des besoins, il y a aussi
des désirs,
voilà, les désirs, tout ça, eh bien on détermine à ce moment-là les outils qu'on va employer pour réaliser ces désirs et cette nécessité, et combler ces nécessités,
et pas pour produire des marchandises,
voilà. Donc c'est pour ça que Bookchin, voilà, exactement, c'est pour ça que Bookchin parle de matrice sociale de la technologie. C'est la seule qui peut contrôler réellement la technologie pour qu'elle ne soit pas nocive d'une part, et qu'elle soit réellement utile pour libérer l'être humain, afin qu'il puisse développer d'autres capacités, comme la capacité communicative, dans une société
où l'art, la culture,
voilà, et même le politique. Le domaine du politique peut être enrichi grâce à la technologie. Parce que, faut oublier que si la démocratie a eu lieu en Grèce, une démocratie directe, bon, mis à part ce que l'on sait
par ailleurs, démocratie de pas grand monde.
Ouais, quoi. Mais en fait, ils ont pu quand même développer ça parce qu'il y avait des esclaves.
C'est ça.
Donc les esclaves peuvent très bien être remplacés par des machines, jusqu'à un certain
point. Et des femmes qui bossent à la maison.
Voilà, exactement. Ça aussi, c'est un phénomène important, parce que toutes les révolutions qui ont réussi, ce sont des révolutions où les femmes ont pris un essor. Bon, enfin, je veux dire, ils ont repris une humanité qu'elles avaient perdue, quoi, qu'elles ont perdue par le système patriarcal qui a été au XVIe siècle, qui a été dès le début du capitalisme, a été multiplié par le patriarcat, a été multiplié et renforcé par l'avènement du capitalisme, puisque le rôle central était le producteur, et le rôle était tenu par le producteur, et le rôle du producteur est tenu par l'homme, quoi. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc, ça, c'est important de le dire. Et c'est important aussi de dire, voilà, maintenant, pourquoi Bookchin propose le municipalisme libertaire. Le municipalisme libertaire, c'est un outil pour arriver à une écologie sociale, en fait. Un communisme libertaire écologiste, quoi, en fait, de quelque sorte, quoi. C'est ça, c'est le rêve. Pour y arriver, il propose justement le municipalisme libertaire. On peut partir là-dessus. En tenant bien compte, en excluant tout à fait, je veux dire, tout ce qui tient de la catégorie du capitalisme, et l'État en était une, et c'est important, je voudrais simplement rappeler ce point important. Lorsque le capitalisme naît en Angleterre, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un État-nation qui est le plus développé dans le monde entier, on peut dire. Il est très centralisé, il est très efficace dans le développement des voies de communication, qui permet au marché de fonctionner d'une façon incroyable, très, 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 très efficace.
Avec les voies fluviales.
Voilà, avec les voies fluviales surtout, parce que l'Angleterre s'y prête. Et donc, ce qui s'est passé, et comment naît le capitalisme, eh bien, c'est parce qu'il y a une spéculation au niveau des baux.
Les locations de, voilà, locations de terres.
Les locations de terres, donc on les met sur le marché. Ce qui fait que le plus offrant, c'est-à-dire le plus offrant pour les baux, va s'arranger pour, évidemment, baisser les prix de production. C'est ça, le but.
C'est ça.
Donc, à quelque moyen que ce soit, il faut baisser les prix. D'où les enclosures, pour agrandir les surfaces, d'où l'emploi de salariés au prix le plus bas. Voilà. Et là, on rentre
avec la logique de la productivité, voilà. et la compétition généralisée.
C'est là qu'on rentre dans l'imparable effet du capitalisme et on ne reviendra jamais derrière, en arrière. Jamais. Et c'est pour ça que c'est voué à l'échec et c'est voué à la destruction. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut voir le rôle du capital. À ce moment-là, Karl Polanyi, hein, que tu dois connaître, l'économiste Karl
Polanyi, la grande transformation,
il explique très bien que s'il n'y avait pas eu l'État à ce moment-là, au début du capitalisme, et surtout le capitalisme industriel, c'est la guerre assurée, quoi. C'est la guerre parce que c'est la foire d'empoigne. Tout le monde lutte contre tout le monde. Donc l'État a un rôle concomitant avec le capitalisme. C'est celui qui permet C'est un coussin entre les classes sociales, entre les classes riches, et ça permet justement de tempérer. Et il faut voir une chose, c'est que l'État, finalement, c'est lui qui crée comme coussin, encore un autre coussin, la démocratie représentative. En fait, c'est une façon de faire croire aux gens qu'ils peuvent décider. Parce que les gens, évidemment, sont toujours sur la défense. La plupart du monde ne peut pas supporter les conditions. Alors on va leur faire croire, pour éviter qu'il y ait une révolte trop importante, on va leur faire croire qu'ils sont partie prenante, qu'ils peuvent décider. Donc petit à petit, la démocratie qui était réservée à quelques-uns au départ, ce qu'on appelle à l'époque gouvernement représentatif, s'ouvre de plus en plus aux classes sociales les plus défavorisées. Et on en arrive à accepter que les femmes, finalement, elles aussi, pourquoi pas, participent. À partir du moment où le système maîtrise tous les mécanismes, il n'y a aucun souci pour que les gens s'y engouffrent dans ce mécanisme.
Bien sûr. Oui.
Donc, là, c'est important parce que ça va décider du sort des stratégies qu'on va employer pour à la fois essayer d'abattre le capitalisme et son outil principal qui est l'État. Donc, c'est pour ça que Bookchin propose qu'on crée un double pouvoir, un pouvoir parallèle, en créant à partir des municipalités, mais pas forcément délimitées par celles qui sont actuellement délimitées, comme telles qu'elles sont délimitées actuellement.
Qui peuvent être des communes,
effectivement, d'organiser des systèmes de démocratie directe, locale d'abord, puis le fédéralisme qui permet justement d'équilibrer, en fonction des richesses des uns et des autres, d'équilibrer les besoins, les manques, les surplus. Alors voilà la question. Je pense que bon, on peut critiquer Bookchin dans certains aspects parce que lui, il a proposé une participation aux élections municipales aux États-Unis. Je ne connais pas la situation aux États-Unis. Je ne sais pas s'il a raison à quelque part ou pas aux États-Unis. Mais je peux dire que dans l'Europe, c'est râpé parce que vraiment les municipalités sont à la solde, sont des catégories du capitalisme à travers l'État, puisqu'elles sont à la cheville de l'État, quoi.
Bien sûr. Hein?
Donc, je pense que là, nous devons créer nos propres institutions. Bookchin était un partisan des institutions. Mais nos institutions...
Parallèlement même aux institutions municipales.
Voilà, c'est ça. Comment créer? Alors, bien sûr, on ne va pas dire on va créer du politique sans créer le matériel. C'est-à-dire que là, il y a une dichotomie souvent. On pense qu'au politique, comme si le politique pouvait à lui seul subvenir aux nécessités d'émancipation.
Ben non.
Je pense que là, il y a un problème et qu'il nous faut avancer.
Comme dans tous les ateliers constituantes, la démocratie réelle,
qui
ne repensent pas du tout
voilà,
ces questions.
En fait, on se retrouve toujours face à aux inégalités sociales, on va se retrouver face à des pressions de lobby. Donc, parallèlement, il faut qu'on soit capable de...
Les pressions du capitalisme de manière générale, le fait qu'il faut produire des marchandises, qu'il faut les vendre.
Voilà, tout à fait. Donc, même autogérées, les usines seront en compétition avec d'autres usines, comme il s'est passé même pendant la Révolution espagnole.
Bien sûr, ouais, bien sûr.
Donc, ça, il faut le voir. Donc, il faut arriver à créer, justement... des ateliers de création, d'être créatifs dans la production matérielle pour subvenir à nos besoins, mais sans être obligé de passer par la valeur. On n'est pas obligé de dégager de la valeur qui va servir à enrichir les capitalistes, mais tout le système qui est autour. Donc, parce que d'un côté, ce qu'on ferait, on tenterait d'affaiblir le système, et de l'autre côté, on le renforcerait.
Bien sûr, donc ça servirait de béquille.
Voilà. Donc, voilà tout l'effort actuellement des écologistes sociaux, ceux comme nous, on a créé cette rencontre à Lyon au mois de mai, de l'écologie sociale, on va la reproduire en Espagne. Les deuxièmes rencontres vont avoir lieu en Espagne, je pense que c'est du côté de Barcelone, l'année prochaine. Mais il faut voir que c'est dans cette perspective qu'il faut travailler. comment réfléchir, mettre tous nos efforts, et s'il faut travailler pendant des années, on travaillera pendant des années, mais mettre en place des systèmes qui répondent aux nécessités et à la fois qu'on crée un système politique qui soit de démocratie directe. Voilà.
Ouais, bien sûr.
Mais là, justement, il faut que ça touche tous les aspects de la vie parce qu'il faut répondre à toutes nos nécessités. Et en même temps...
On ne peut pas rester dans un autisme politique simplement où on change juste le mode de désignation. Voilà.
On ne peut pas rester et dans la critique d'une part seulement, sans que ça débouche sur quelque chose, et non plus reproduire tout le système, que ce soit par un biais ou par un autre.
C'est ça.
Donc, voyons, essayons de bien réfléchir comment, bon, comme les Espagnols ont fait pendant ça plus de 50 ans pour créer une révolution qui soit une révolution efficace, porteuse.
Émancipatrice.
Émancipatrice. Pourquoi ? Parce qu'on parle des enfants, on parle de la naissance, on parle de comment ne pas reproduire émotionnellement aussi tout ce qui fait partie de la domination. Parce que la domination n'est pas seulement intellectuelle, la domination est aussi émotionnelle. Comment on crée des pathologies de la domination et de la soumission qui sont complémentaires ? Donc tout ça, c'est à travailler. C'est à travailler aussi au niveau de l'éducation des enfants. Comment les enfants apprennent à réfléchir sur des problèmes concrets à partir de données concrètes. Et c'est pas pour en faire des anarchistes ou des écologistes sociaux. Non, c'est pour faire en sorte qu'ils soient capables d'avoir un esprit critique et à la fois de ne pas engranger, mais essayer de comprendre les choses.
Après, pour revenir quand même sur la notion de municipalisme libertaire, c'est vrai que ce qu'on pourrait, c'est effectivement une proposition qui va plus loin évidemment que les propositions démocratistes, citoyennistes, de on va faire une constituante ou on va choper une mairie ou même carrément on va aller voter pour le candidat écolo ou pour Mélenchon. Ça va plus loin que tout ça, donc il faut quand même voilà. Dire que voilà, souligner les mérites quand même de Bookchin. Après, c'est vrai que la limite, c'est que le municipalisme libertaire, c'est deux défauts. Ça peut être de croire que ça consisterait simplement à aller prendre des mairies et essayer de faire ça de manière parallèle à l'État, alors que les mairies font partie évidemment du système étatico-capitaliste, ouais. D'une part. Et d'autre part, ce serait de croire que on pourrait tout simplement prendre quelques mairies et que progressivement, les petites souris dévoreraient le gruyère capitaliste, alors que évidemment, il y aurait Bookchin, je pense, le savait comme tous les révolutionnaires, qu'à un moment, évidemment, l'État évidemment ne laissera pas ce processus se faire. On voit même que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est déjà trop pour l'État. Et donc du coup, effectivement, tu me disais avant l'émission que effectivement, Murray Bookchin quand même évacuait pas complètement cette question de la révolution, puisqu'il pensait notamment au fait qu'à un moment, ces communes devraient se défendre par elles-mêmes contre l'État, etc., etc. Et du coup, ce qui fait que je pense que la proposition du municipalisme libertaire, elle est encore plus intéressante, à mon avis, si on la rapproche du communisme libertaire, c'est-à-dire d'une révolution qui vise à instaurer, et qui peut effectivement... Dans sa préparation, parce que, évidemment, on insiste beaucoup sur la révolution de 1936, mais la révolution de 1936, comme tu le dis très bien, elle n'est pas de nulle part. Effectivement, elle instaure très rapidement ce qui ressemble à les premières étapes du communisme libertaire en Aragon, avec la sortie de l'abolition de l'argent, du salariat, etc., etc. Mais la propriété commune des terres, etc. etc. Mais évidemment, c'est préparé par 50 ans de bibliothèques, de rencontres, de lutte sociale dans les usines, de transformation de la vie quotidienne, etc. etc. Et donc, évidemment, la proposition de Bookchin peut être intéressante, à mon avis, si d'une part, elle a comme horizon ce communisme libertaire. Et que du coup, ce municipalisme libertaire ne se transforme pas simplement dans une conquête de mairie, dans une gestion altercapitaliste de l'existant, mais bien plutôt que ça se fasse à travers la constitution de communes qui restent dans une totalité capitaliste, mais de communes qui, de manière parallèle et contre le capitalisme et l'État, crée d'autres formes de rapports sociaux, permet aussi aux gens qui sont dans la merde de subvenir à leurs besoins d'une autre manière qu'à travers la production de marchandises et la vente de la force de travail. Et que, évidemment, c'est comme horizon la sortie du capitalisme et de l'État est évidemment une phase inévitablement conflictuelle. Et dans ce sens-là, alors peut-être que du coup, moi, je n'appellerais pas ça le municipalisme libertaire, mais plutôt voilà, le communisme libertaire, pas seulement dans l'instauration voilà, d'un communisme libertaire, mais aussi le fait que, dès aujourd'hui, le fait de constituer déjà des communes. Voilà, des communes qui sont à la fois dans un ordre global stato-capitaliste, mais qui en même temps se construisent contre lui, en essayant d'acquérir une autonomie matérielle, de développer d'autres rapports sociaux, etc., etc., quoi.
Oui, bien sûr, tu sais que toute proposition qui a été faite, même par les anarchistes comme l'autogestion, peut être récupérée. Je vois par exemple, lorsqu'il y avait l'exemple de Marina Leda, hein, l'exemple de Marina Leda, c'est très intéressant de voir comment une organisation justement assembléaire peut finir par faire partie du système. Et Marina Leda a été à un moment donné applaudie par le Financial Times en disant ben, pourquoi pas, finalement, un village autogéré qui produit. Qui est une coopérative qui produit, qui écoule ses produits, pourquoi pas, hein,
Oui, bien
pourquoi
sûr.
pas, pas de souci.
Oui,
Non.
bien sûr.
Non.
Comme la permaculture qui est maintenant louée par
Voilà,
l'INRA, tout est
exactement.
récupérable.
Voilà,
Les Che
voilà.
Guevara, le t-shirt
Or,
Che Guevara.
toutes ces choses-là peuvent être intéressantes à partir du moment où, justement, elles trouvent une direction à prendre. Et une direction claire, qui est celle de l'anticapitalisme, justement. À partir de ce moment-là, quand je parle anticapitalisme, je parle d'anticapitalisme, mais c'est catégorie.
C'est
L'État
ça.
et tout ce qui en dépend, tout
C'est-à-dire
ce qui
pas
découle.
simplement
Voilà, c'est
l'autogestion.
le
Oui, c'est
système
ça.
capitaliste dans son ensemble. Eh bien, je crois que là, c'est important, parce qu'effectivement, l'État, ce qu'il va faire, même le municipalisme libertaire, il peut le récupérer. Actuellement, n'est-on pas en train de récupérer justement la parole municipalisme? Parce qu'en Espagne, le municipalisme, avant l'anarcho-syndicalisme, avait déjà une importance très importante. Et c'était les anarchistes qui proposaient le municipalisme. Seulement, petit à petit, le municipalisme a été effacé par l'anarcho-syndicalisme. Mais c'est une des versions importantes de l'anarchisme espagnol.
Bien sûr.
Donc, cette mémoire-là, elle est encore présente en Espagne, malgré les 40 ans de franquisme, malgré l'assassinat de milliers d'opposants et de militants
L'anarchiste.
anarchistes. Bon, eh bien, elle est toujours. Donc, actuellement, il y en a qui se réclament du municipalisme, comme Ada Colau, par exemple,
La maire de Barcelone.
la maire de Barcelone, qui réprime une manifestation lors d'un salon sur l'informatique. Évidemment, l'informatique, c'est beaucoup plus important. Hein. Donc, voilà, c'est pour dire que, voilà.
C'est le municipalisme capitaliste.
Voilà, non, c'est très, très récupérable. Je veux
C'est
dire
vrai.
qu'actuellement, par exemple, en Espagne, il y a le phénomène Podemos. Comment le phénomène Podemos évacue des luttes qui étaient intéressantes, une pratique qui commençait à être intéressante et qui s'est arrêtée, et qui aurait pu être intéressante dans le temps. C'est-à-dire lorsque on mûrit, lorsqu'on concrétise des choses, des structures, qu'on met en place des structures qui durent dans le temps, qui mûrissent, qui arrive à s'enrichir. Là, oui, c'est intéressant. Mais quand c'est évacué par un mouvement politique, malheureusement, c'est ce qui s'est passé par un parti politique comme Podemos. Le 15e, avec des propositions qui vont de plus en plus dans le sens d'aller travailler au niveau des quartiers, d'aller travailler à la base et de faire des assemblées, eh bien, avec des mots d'ordre comme ni gauche ni droite, avec des mots d'ordre la caste, tu vois, bon.
C'est populiste.
Il fait sauter. Mais c'est ce qui s'est passé dans la transition en Espagne. Il y avait un mouvement d'opposition au gouvernement très important. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on invente un parti politique qui n'existait plus, qui s'appelle le PSOE. Hein,
Ah
on le
oui.
finance. La social-démocratie allemande finance. La décision
La transition après Franco,
la
évidemment.
transition après Franco a été fabriquée par le G7 de l'époque. Je crois que c'est un G7 et pas un G5, je ne suis pas sûr. Tout est donc, c'est
Voilà, ils ont
aberrant.
recréé le PSOE, qui était déjà
Voilà.
d'ailleurs un parti de collaboration avec le capitalisme et tout
Voilà,
ça,
ça a
et ils
été.
l'ont réimplanté, et il a gagné les élections, il a géré la transition
Voilà.
vers l'Espagne actuelle, quoi,
Voilà,
un capitalisme d'État
développer la consommation,
démocratique, entre guillemets.
criminaliser l'anarcho-syndicalisme avec la bombe, le théâtre de la Scala.
C'est ça.
Hein, et puis, voilà. Et ça se reproduit. C'est ça qui est triste de voir que beaucoup de gens qui sont sincères dans leur démarche de libération, on peut parler ça, et d'un projet libérateur, finalement, se trouve repris dans des mêmes logiques, quoi, parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'histoire. Et ça, c'est malheureux, quoi. Je veux dire, l'histoire doit être prise comme une somme de lueurs aussi pour créer une alternative, mais aussi comme une préparation, comment dire, pour se prévenir des attaques de l'ennemi, quoi, en fait.
Ou des impasses
de gens qui sont sincères. Je pense que dans Podemos, il peut y avoir 99% de gens sincères. Je ne dis pas le contraire.
Mais ils vont vers une impasse qui est celle de tous les partis politiques de gauche depuis 150 ans.
Je veux dire que Podemos, c'est vraiment le cas caricatural de ce qui s'est passé en Grèce auparavant. Je veux dire, mais ça va durer plus longtemps, parce que là, c'est encore autre chose, c'est un autre rapport de force qu'il y a entre les partis. Mais quand on voit comment se développe Podemos à partir d'une idéologie populiste, qui heureusement n'est pas celle de la France qui a été récupérée par Le Pen, mais là aussi c'est...
Mais oui, il parle quand même de patria.
Oui, mais il y a aussi toute une connotation, tu vois, c'est une des connotations, parce que là-dessus, il faudrait qu'on revienne un jour, une connotation affective que nous, on ne sait pas développer. Nous, on est très rationnel, mais on ne développe pas l'affectif. Or, l'affectif est une composante importante aussi de la révolution. L'émotionnel et tout ça. Et eux jouent là-dessus. Nous, on n'est pas capable de jouer là-dessus. Attention. Là, c'est un truc, une autocritique pour se faire à nous-mêmes. Hein. Parce que, et lorsque tu parlais tout à l'heure d'un projet politique, justement, c'est un vide qui existe actuellement dans l'anarchie. C'est que seul Bookchin propose une démarche politique. Une démarche politique dans son vrai sens du terme, c'est-à-dire la gestion de la cité par les gens eux-mêmes. Et pendant l'Espagne, on parlait aussi, mais justement, là, l'Espagne est une leçon importante. Dans le mouvement révolutionnaire espagnol, dans l'anarcho-syndicalisme espagnol, on n'avait pas prévu l'histoire politique. Ce qui fait que, bon, ben voilà, des gens de l'anarcho-syndicalisme sont rentrés au gouvernement.
C'est ça, exactement.
C'est pas mal, hein.
Des bureaucrates.
Alors que si on avait prévu, si on avait suivi ce qui avait déjà été commencé au niveau du municipalisme, on aurait trouvé une politique différente. Parce que le thème politique, on ne peut pas l'évacuer. Or, pendant longtemps, les révolutionnaires ont évacué et parlaient que de révolution sociale, pas politique. Alors je pense que c'est un tout, c'est une globalité.
Presque une révolution politique et antipolitique.
Oui, voilà, oui, anti-politique en parlant de la politique. Moi, je parle du politique contre la politique.
C'est ça, exactement.
Le champ du politique.
C'est ça. Ouais. Et du coup, alors simplement pour revenir un petit peu, je passe là-dessus, mais c'est vrai qu'une des limites aussi, à part donc le fait que le municipalisme libertaire peut être très facilement intégrable dans le capitalisme, il y a évidemment le fait que, mais bon, ça tu le sais très bien, que Murray Bookchin, comme... une partie de l'anarchisme n'avait pas suffisamment réfléchi sur les questions de valeur, de production de marchandises autogérées et tout ça, et que c'est là où il faut évidemment aller encore plus loin que Bookchin, qui quand même pose quand même une écologie anticapitaliste, mais sans aller jusqu'au disons toutes les conséquences d'une écologie anticapitaliste, c'est-à-dire une écologie qui va au-delà du travail marchandise, de la marchandise, de la valeur et tout ça.
Je pense que Bookchin, au niveau de l'analyse, il l'a faite. C'est-à-dire que quand tu lis Une société à refaire, il parle très bien, il fait l'éloge de Marx en tant qu'analyse de la critique de la valeur. Il parle très bien, il voit très bien. Il voit très bien aussi le Marx sombre, celui de le matérialisme dialectique, du mouvement ouvrier messianique qui va nous apporter une nouvelle société juste et pas parfaite, le communisme, tout. Bon, tout ça, il le voit. Seulement, je pense que là, peut-être il n'a pas assez insisté, et c'est nous à poursuivre ce travail, c'est dans ce qu'on parlait tout à l'heure, au niveau du matériel, comment développer le matériel qui fasse en sorte que tout le monde puisse continuer à vivre tout en ayant ce projet et en développant le municipalisme libertaire. Enfin, je pense que c'est les deux facettes qu'il faut développer en même temps, c'est-à-dire le côté matériel et le côté politique, c'est-à-dire le côté social. Par exemple, je prends des exemples très concrets que nous pouvons aussi peut-être aider. Pas en lui donnant une direction bien claire. C'est-à-dire quand je vois, par exemple, les villes en transition, qui ont des pratiques très intéressantes, mais je vois dans les jardins autogérés dans beaucoup d'endroits, les jardins populaires, l'économie, enfin, il y a des choses qui se font actuellement, les gratuités, par exemple, les marchés de gratuité, par exemple.
Les gratifériens.
Voilà, il y a des choses très intéressantes qui se font, mais qui n'ont pas de débouché, qui n'ont pas une vision au-delà du présent. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'actuellement, on n'a pas d'imaginaire collectif. Voilà. Et c'est ça qu'il faut redonner. C'est ça qu'il faut redonner à tous ces gens qui entreprennent quelque chose. Et pourquoi? Comment redonner? Non pas comme nous sommes, on n'est pas des témoins de Jéhovah, on ne va pas leur apporter la bonne parole, mais en participant à leurs actions, en proposant aussi, en proposant une idée claire de ce que l'on veut. C'est-à-dire justement enrichir. Pour moi, ce serait d'enrichir l'idée du municipalisme libertaire. C'est pour ça qu'on fait des rencontres d'écologie sociale pour intégrer des gens qui ne sont pas forcément définis politiquement, mais qui petit à petit, peut-être, prennent des éléments qui sont les nôtres et les intègrent. Et nous, on peut intégrer leurs éléments aussi dans notre pratique.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire, eux, ils peuvent proposer des pratiques, des contenus agricoles, etc., oui, etc., qui peuvent être intéressants, mais auxquels il manque un cadre politique et théorique radicalement anticapitaliste, quoi.
Tout à fait, voilà. C'est ça, exactement.
Et du coup, ce serait un petit peu... parce que là, on a parlé justement de toutes ces pratiques écologiques qui, finalement, étaient progressivement réintégrées par le capitalisme, les jardins partagés qui deviennent des jardins municipaux subventionnés par l'État, la permaculture qui est promue par l'INRA comme une technique agricole rentable qui permet de dégager tant d'euros au mètre carré, etc., etc. Et d'un autre côté, donc on a toutes ces pratiques qu'il faudrait réintégrer dans le cadre plutôt de communes qui se construisent, certes dans le cadre de la globalité capitaliste, mais contre le capitalisme et l'État. Et d'un autre côté, puisqu'on a déjà parlé de Podemos, il y a aussi et ça j'aimerais bien que tu reviennes dessus, peut-être pour finir cette émission, c'est-à-dire sur tous ces courants écologistes, à la fois écologistes, citoyennistes, démocratistes, qui sont incarnés par Pierre Rabhi, Hervé Kempf, et tout un tas d'autres mouvements qui gagnent aujourd'hui, qui arrivent sur le devant de la scène et qui pourtant n'ont pas de critique du capitalisme, n'ont pas de critique de l'État et se contentent d'invoquer les assemblées, les constituantes, etc., etc. Et du coup, est-ce que tu pourrais, quelles seraient les critiques que tu adresserais, toi, et puis aussi notamment à partir de Bookchin et aussi de la critique de la valeur, les critiques que tu ferais à tous ces courants qu'on pourrait appeler écolo-citoyennistes en France et puis aussi en Espagne, puisque tu connais un peu le sujet en Espagne, et notamment la récupération de l'écologie par Podemos. Ça, ce serait intéressant que tu reviennes là-dessus.
Oui, on peut repartir de Podemos. Comment Podemos essaye de... En fait... on se rend compte que finalement, eh bien, ces mouvements n'ayant pas la force de la conviction anticapitaliste, justement, ce qui se passe, c'est qu'ils se laissent mener par des sirènes qu'on leur propose. C'est-à-dire, bon, on va consommer du bio, on va consommer du bio, on va consommer des alternatives, finalement. On peut consommer des alternatives.
Bien sûr, ouais.
Ben écoute, on va faire des stages, et puis je t'enseigne l'agroécologie, j'en fais de l'argent avec ça. Donc, difficilement, après, je peux avoir une vision anticapitaliste, parce que dans mon...
C'est une marchandise, l'alternative.
Dans mon éventail, je te propose, qu'est-ce que tu veux sur l'agrobiologie? Allez, l'agrobiologie, qu'est-ce que tu veux? Les constructions en paille, bien qu'est-ce bien. Que tu veux? Voilà, donc, finalement, ça ne dérange pas. C'est pas dérangeant. Mais c'est dommage, parce que là-dedans, il y a des gens qui ont une démarche véritable, une démarche authentique. Moi, je prends par exemple l'exemple d'une organisation écologiste espagnole très, très influente, qui a lutté beaucoup contre beaucoup de projets urbanistiques ou autres en Espagne, qui s'appelle Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción, eh bien... ils ont une structure qui peut sembler assemblée, mais en fait, elle est tenue par quelques intellectuels qui eux-mêmes sont payés par une fondation qui est subventionnée par l'État. Donc, difficilement, ils vont prendre des décisions qui vont aller contre la main qui leur donne à manger.
Bien sûr. Hein?
Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces gens-là, finalement, se déclarent, je suis allé à une de leurs rencontres, éco-socialistes. Éco-socialiste, ben c'est ça. Ça veut dire que, comme on ne voit pas la nocivité de l'État, on pense qu'on peut l'utiliser. On en arrive en Espagne
Oui, mais Mélenchon, ici, récupère aussi ce concept d'écosocialisme, hein, donc c'est complètement...
Oui,
ça n'a aucun sens.
C'est vrai. Mais bon, en Espagne, si tu veux, bon, par exemple, les écosocialistes, normalement, eux se prononcent contre... se prononcent pour la décroissance, par exemple. Ils vont se prononcer pour la décroissance. Seulement, le problème, c'est qu'ils sont tenus à Podemos. C'est des gens qui sont dans le projet politique de Podemos, et si jamais Podemos arrive à gagner, l'un d'eux sera le ministre de l'écologie.
C'est merveilleux.
Mais seulement lorsqu'il s'est agi dans une assemblée de dire « Est-ce que vous êtes pour la décroissance ?»« Oui, mais il ne faut pas le dire, parce qu'il y a les élections qui arrivent. » Donc, comme quoi, on sacrifie finalement ses convictions, parce qu'il y a une stratégie à apporter. Et ça va même plus loin. Je veux dire, et c'est là qu'on voit que déjà le capitalisme et déjà le système capitaliste prévoit, est beaucoup plus intelligent que nous, dans ce sens qu'il est capable de prévoir déjà ce qui peut arriver. Nous, on n'en est pas là. On n'en est pas là dans notre analyse politique et dans notre capacité de mettre en place des systèmes, justement, alternatifs véritables. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, eux, ils ont prévu, ils ont dit, ils savent très bien qu'en Espagne, il y a un mouvement anarchiste qui est latent. Il n'est pas déclaré, mais il y a cette mémoire qui reste en place. Eh bien, ils déclarent carrément, hein, comme ça, vous les anarchistes, occupez-vous des assemblées. C'est important que vous fassiez avec contrepoids avec vos assemblées, des assemblées de base, décisionnelles. Nous, on s'occupe du sale boulot d'être dans un gouvernement pour essayer de vous protéger au maximum. Voilà la proposition, non, telle qu'elle, sérieux, il y a deux livres qui ont été écrits à ce sujet, par un renégat de l'anarchisme qui était à la CNT et qui du coup a dit non, c'est plus possible cette histoire, il faut envisager, il ne faut pas voir l'État comme étant quelque chose de si nocif, on peut l'utiliser finalement.
L'État neutre, la thèse du marxisme de l'État neutre.
Voilà, donc c'est pour ça que je pense que autant l'Espagne que la Grèce, ce sont des laboratoires pour le système, pour voir de quelle façon on peut prévenir les choses qui risquent de prendre de l'ampleur.
Oui,
donc c'est pour ça que nous devons avancer, peut-être lentement, mais sûrement. Je veux dire que lorsqu'on fait des choses, il faut que ça tienne la route, quoi. Il faut que ça soit quelque chose de construit.
Qu'il y a un horizon et pas quelque chose de récupérable.
Non, pas quelque chose comme peut être nuit debout, quelque chose. Et il faut construire quelque chose à partir de ces élans qui sont vitaux. Évidemment que c'est des élans vitaux et positifs, mais les mener vers une construction patiente et ne pas croire qu'avec un clic sur Internet, on va changer les choses. Je veux dire, c'est pas ça, tu vois. Enfin, je sais pas si... on peut encore parler, évidemment.
Oui, bien sûr. Et effectivement, c'est aussi... puisque là, on a un peu abordé la question de Podemos, dont je pense que tu fais une analyse très, très intéressante. D'ailleurs, cette espèce de... le Podemos qui assigne aux anarchistes une espèce de rôle de poisson pilote dans les quartiers, ça fait penser un petit peu à...
Indirectement, hein,
je indirectement,
dire, oui, indirectement. Oui.
Ça fait penser un petit peu à cette conversation entre Trotsky et Makhno qu'ils ont eu à New York quelques mois avant la révolution russe, et où Makhno disait vous allez quand même, mais voilà, vous les bolcheviks, vous allez fusiller les anarchistes et tout ça. Et Trotsky, qui dit « Mais non, les anarchistes, ce sont nos amis, nous aimons bien les anarchistes et tout ça. » Un petit peu comme Lénine disait dans « L'État et la Révolution », sauf que quelques mois plus tard, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fusillé les anarchistes, parce qu'à un moment, ils sont devenus gênants pour leur projet politique, quoi, et économique. Enfin bref, ça me fait penser à ça, surtout qu'on est bientôt sur le centième anniversaire de la Révolution bolchévique. Bref, pour revenir à des choses plus actuelles, on a parlé de Podemos, on a parlé de Syriza. Est-ce qu'on pourrait parler, du coup, puisque, pour finir, c'est quand même une collection qui arrive chez les précurseurs de la décroissance, quelle critique, finalement, on pourrait faire à partir de tout ce qu'on a dit, justement, de la décroissance qui se présente comme un courant qui va plus loin, simplement, que par, je sais pas, que les verts, qui sont vraiment dans le capitalisme vert le plus pur. Est-ce que la décroissance, par le fait qu'elle ne pense pas à les questions du capitalisme et de l'État, Et en plus qu'elle prétend dépasser le clivage gauche-droite, ce qui conduit parfois certains de ses représentants, qu'on ne nommera pas ici, à s'acoquiner avec des gens d'extrême droite, quelle est la critique qu'on pourrait faire alors à la fois, évidemment, il s'agit pas de... Évidemment, la décroissance va plus loin que le développement durable, voilà, ça reste une espèce d'alter-capitalisme un petit peu plus radical, quoi, que le développement durable.
Oui, bien sûr, c'est intéressant de voir, bon, dans les précurseurs de la décroissance, il n'y a pas seulement Bookchin, hein, il y a par exemple Tolstoï, il y a Kropotkine aussi, donc est édité. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens comme Jacques Ellul, bon, qui sont très discutables, et autres. Mais effectivement, bon, c'est ce qu'on a expliqué dans le livre, en fait, la décroissance, si elle n'est pas accompagnée d'une critique, c'est une provocation, ça peut être une provocation. Dans le sens de dire, ça remet en question la croissance, quoi. Et qu'est-ce que c'est que la croissance? C'est vraiment le béaba
Du
du
capitalisme.
capitalisme. Vraiment, là, c'est clair.
Mais on ne peut pas remettre en cause la croissance sans le capitalisme, justement.
Voilà. Mais le problème, c'est que beaucoup de décroissance, si tu veux, n'attaquent pas de front le capitalisme. Mais en fait, ça peut être aussi une manœuvre du pouvoir pour accoutumer les gens à être dans, non pas la décroissance,
Dans la récession.
dans la récession. Exactement, c'est exactement le mot. Soyez, serrez-vous la ceinture, apprenez à être sobre,
L'austérité
parce que
écologique.
vous allez, préparez-vous, ça va venir.
C'est
C'est pour les classes les plus défavorisées, parce que les autres, elles vont croire, elles vont
ça.
consommer de plus en
Bien
plus.
sûr, bien sûr.
C'est ce qui se passe actuellement.
C'est ça.
C'est vraiment cet antagonisme de plus en plus, cette opposition et cet écartement de plus en plus entre les pauvres et les riches, quoi. Donc voilà, donc on va vers la récession pour les pauvres, et c'est la récession pour les pauvres. Donc ça, c'est dangereux parce que pédagogiquement, si tu veux, ça ne peut que favoriser le système qui voilà, qui dit voilà, éthiquement, vous devez vous comporter de cette façon. Donc mais voilà, nous, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye de démontrer là.
Oui, c'est une éthique en fait. C'est la
Voilà.
décroissance, c'est en fait
Ça
c'est
peut
sa
l'être.
grosse limite, c'est
Ça
voilà,
peut
c'est
l'être.
simplement la simplicité volontaire. Et la
Voilà.
simplicité volontaire, elle est tout à fait récupérable dans le cadre du capitalisme. À part que bon, on consomme un peu moins de marchandises. Bon, il faut consommer des marchandises simples, mais ça remet pas en cause fondamentalement. Et en plus, c'est même pas tellement efficace d'un point de vue écologique, puisque ce qu'il faut, c'est remettre en cause justement les bases même de la destruction
Non.
écologique, et pas
Non.
simplement la consommation individuelle. C'est aussi un des gros problèmes de la décroissance, c'est que ça s'attaque avant tout à la consommation, etc., etc., alors que ce qu'il faut remettre en cause, c'est le processus de production capitaliste.
Voilà. En fait, si on prend au mot la décroissance, eh bien, si on prend vraiment au mot la décroissance et on va à la racine de la croissance, c'est ce que la décroissance, c'est bien ça, aller à la racine de la croissance, on remet en cause le système capitaliste puisque c'est la croissance. Croître ou mourir,
C'est ça.
c'est ça.
Et l'État, du coup, puisque l'État est
Mais,
le jumeau de l'économie,
bien sûr.
l'agent, le bras armé du
Ah ben,
capitalisme.
écoute, l'État, ce qu'il fait, c'est promouvoir sans arrêt
C'est ça.
la croissance.
C'est ça.
D'ailleurs, quand on écoute un
Idéologiquement
président
et
de la
matériellement,
République,
d'ailleurs.
matériellement aussi, c'est lui qui va même faire des guerres à l'étranger s'il faut pour instaurer,
Pour restaurer la croissance, oui.
voilà, pour développer là-bas des industries qui vont lui rapporter de l'argent. Et
Ou
la construction européenne,
vendre des avions.
voilà, la construction européenne, elle, c'est bien une construction des États-Unis, de l'impérialisme des États-Unis, donc de l'État des États-Unis qui veut développer son économie.
À travers le plan Marshall et tout ça,
Voilà.
oui, bien sûr.
Donc,
Oui, effectivement, c'est là où on voit l'impasse, effectivement, d'une démarche simplement éthique qui se baserait sur une espèce de décroissance de la consommation individuelle. Alors qu'en réalité, il faudrait aller sur quelque chose de beaucoup plus politique
bien
et qui
sûr.
tape
Bookchin
sur les racines.
parle aussi de ça. Il dit que mais si les gens croient, il ne faut pas culpabiliser les gens, parce que ça, c'est une forme de culpabiliser les gens. Si vous consommez, vous consommez, vous êtes des cons. Non, ils consomment parce qu'il y a une industrie. L'industrie numéro un ou numéro deux après l'armement, c'est le marketing.
C'est ça, bien
Je veux dire,
sûr.
c'est comment on fait en sorte que les gens consomment le plus possible.
Bien sûr.
Donc, arrêtons de culpabiliser les gens. Essayons de leur faire comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils consomment de la sorte.
Ça.
Qu'est-ce qui leur fait
Et
consommer?
après, la décroissance va pouvoir éventuellement critiquer la publicité, Mais sans comprendre pourquoi est-ce que on produit ces gigantesques masses de marchandises, parce qu'il y a une concurrence généralisée entre producteurs de marchandises, parce qu'il s'agit de faire du profit, parce qu'il y a une crise structurelle qui fait que il faut, pour produire la même quantité de valeur, il faut produire toujours plus de marchandises, etc., etc. Et ça, c'est des années qu'ils ne voient pas.
Mais à faveur de la décroissance, je dirais que quand même, ça a permis la réflexion à pas mal de gens. Moi, je connais des gens parce que souvent je côtoie des gens qui sont différents de moi, hein, et qui ont une démarche de décroissance. Et petit à petit, la réflexion se fait, effectivement.
Bien sûr.
Ça peut être comme dans tous les mouvements qui sont des mouvements qui essayent de changer les choses. Il y a toujours un potentiel pour développer leur analyse critique
Il
et
y a beaucoup
proposer
de
des
gens
choses.
d'ailleurs de sortir de l'économie qui est une sorte de version critique de la valeur de la décroissance, qui sont effectivement partie
Voilà.
de la décroissance et qui en fait se sont rendu compte, oui, mais il n'y a pas de remise en cause de l'économie, du capitalisme, de l'État, et qui dans leurs quatre numéros ont développé, voilà, ont montré les impasses de la de la décroissance telle qu'elle existe aujourd'hui, ont montré les impasses des AMAP, de certaines pratiques écologiques, quand elles se font dans le cadre du capitalisme. Parfois, c'est inhérent. Les AMAP, bon, c'est quand même vendre avant tout, etc. Et du coup, il y a, à mon avis, effectivement, il ne s'agit pas ici de dire aux objecteurs de croissance qu'ils peuvent aller se faire voir, mais au contraire d'approfondir leur démarche dans le
Exactement.
sens d'une remise, enfin d'aller jusqu'au bout,
Jusqu'au bout, oui, de
voilà,
l'analyse,
jusqu'au
tout
bout
à
de
fait.
l'analyse,
Tout à
voilà.
fait. C'est une analyse sociale, non pas une analyse philosophique qu'on fait là.
Pas seulement éthique, quoi,
Parce que
voilà.
oui, pas seulement éthique, ça peut l'être aussi.
Ça
C'est
peut
un...
l'être
L'un
aussi.
n'empêche pas
L'un
l'autre.
n'empêche pas l'autre, évidemment, ouais.
Hein.
Voilà, et ben écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour de toutes les problématiques qu'on voulait aborder. Donc j'invite vivement les gens qui nous ont écoutés à lire ce petit livre Murray Bookchin pour une écologie sociale et radicale, parce que je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bouquin écologiste, enfin qui parle d'écologie, disons, qui allait aussi loin dans la critique. J'invite aussi nos auditeurs sur ces questions-là à lire Sortir de l'économie et à lire évidemment donc ce petit livre Murray Bookchin pour une écologie sociale et
Et
radicale.
être critique avec.
Et à être critique avec et à aller encore plus
Plus
loin
loin, voilà.
que les auteurs et que Murray Bookchin évidemment. Bon bah donc merci Floréal pour cette émission.
Merci à vous, ouais.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.